Aristote, Morale à Eudème, traduction Jules Barthélemy Saint-Hilaire, livre 2, de la vertu, chapitre 6 à 11 compris. Chapitre 6, sommaire. De l'homme considéré comme cause. Il est le seul parmi les animaux à jouir de ce privilège. De la nature diverse des causes. Les causes immobiles, les causes motrices. Citation des analytiques. L'homme est une cause libre. Il peut faire ou ne pas faire ce qu'il fait. De la louange et du blâme dont la vertu et le vice sont l'objet. La vertu et le vice sont purement volontaires et dépendent du libre arbitre de l'homme. Paragraphe 1. Prenons maintenant un autre principe pour l'étude qui va suivre. Et ce principe, le voici. Toutes les substances, selon leur nature, sont des principes d'une certaine espèce. Et c'est là ce qui fait que chacune d'elles peut engendrer beaucoup d'autres substances semblables, comme par exemple l'homme engendre des hommes, l'animal engendre généralement des animaux et la plante des plantes. Paragraphe 2. Mais outre cet avantage, l'homme a le privilège spécial parmi les animaux d'être le principe et la cause de certains actes. Car on ne peut pas dire d'aucun autre animal que lui qu'il agisse réellement. Paragraphe 3. Entre les principes, ceux-là sont éminemment des principes qui sont l'origine primordiale des mouvements. Et c'est à juste titre qu'on donne surtout le nom de principe à ceux dont les effets ne peuvent être autrement qu'ils ne sont. Dieu seul, peut-être, est un principe de ce dernier genre. Paragraphe 4. Quand il s'agit de causes et de principes immobiles, comme sont les principes des mathématiques, il n'y a pas là de cause à proprement parler. Mais on les appelle encore des causes et des principes par une sorte d'assimilation. Car, là aussi, pour peu qu'on renverse le principe, toutes les démonstrations dont il est la source, quelque solides qu'elles soient, sont renversées avec lui. Tandis que les démonstrations elles-mêmes ne peuvent point changer, l'une détruisant l'autre, à moins qu'on ne détruise l'hypothèse primitive et qu'on eût fait la démonstration par cette hypothèse première. Paragraphe 5. L'homme, au contraire, est le principe d'un certain mouvement, puisque l'action qui lui est permise est un mouvement d'un certain ordre. Mais comme ici, tout de même qu'ailleurs, le principe est cause de ce qui existe ou se produit par lui et à sa suite, il faut bien se dire qu'il en est du mouvement dans l'homme comme pour les démonstrations. Paragraphe 6. Si par exemple, le triangle ayant ses angles égaux à deux droits, il s'ensuit nécessairement que le quadrilatère a les siens égaux à quatre angles droits, il est évident que la cause de cette conclusion c'est que le triangle a ses angles égaux à deux angles droits. Si la propriété du triangle vient à changer, il faut que le quadrilatère change aussi. Et si le triangle, par impossible, avait ses angles égaux à 3, le quadrilatère aurait les siens égaux à 6. Si le triangle en avait 4, le quadrilatère en aurait 8. Mais si la propriété du triangle ne change pas et qu'elle reste telle qu'elle est, la propriété du quadrilatère doit également rester telle qu'on vient de le dire. paragraphe 7. Il a été démontré avec pleine évidence dans les analytiques que ce résultat que nous ne faisons qu'indiquer est absolument nécessaire. Paragraphe 8. Mais ici, nous ne pouvions ni le passer entièrement sous silence, ni en parler avec plus de détails que nous ne le faisons, car s'il n'y a pas moyen de remonter à une autre cause qui fasse que le triangle ait cette propriété, c'est que nous sommes arrivés au principe même et à la cause de toutes les conséquences qui en sortent. Paragraphe 9. Mais, comme il y a des choses qui peuvent être, contrairement à ce qu'elles sont, il faut aussi que les principes de ces choses soient également variables. Car tout ce qui résulte de choses nécessaires est nécessaire comme elles. Mais les choses qui viennent de cette autre cause signalée par nous peuvent être autrement qu'elles ne sont. C'est souvent le cas pour ce qui dépend de l'homme et ne relève que de lui. Et voilà comment l'homme se trouve être cause et principe d'une foule de choses de cet ordre. Paragraphe 10. Une conséquence de ceci, c'est que pour toutes les actions dont l'homme est cause et souverain maître, il est clair qu'elles peuvent être ou ne pas être, et qu'il ne dépend que de lui que ces choses arrivent ou n'arrivent pas, puisqu'il est le maître, qu'elles soient ou ne soient point. Il est donc la cause responsable de toutes les choses qu'il dépend de lui de faire ou de ne pas faire, et toutes les choses dont il est cause ne dépendent que de lui seul. D'autre part, la vertu et le vice, ainsi que les actes qui en dérivent, sont les uns dignes de louange et les autres dignes de blâme. Or, on ne loue et l'on ne blâme jamais les choses qui sont de la nécessité, de la nature ou du hasard. On ne loue et l'on ne blâme que celles dont nous sommes les causes, car toutes les fois qu'un autre que nous est cause, c'est à lui que revient et la louange et le blâme. Il est donc bien évident que la vertu et le vice ne concernent jamais que des choses où l'on est soi-même cause et principe de certains actes. Paragraphe 12. Nous aurons donc à rechercher de quels actes l'homme est réellement la cause responsable et le principe. Mais nous convenons tous unanimement que dans les choses qui sont volontaires et qui résultent du libre arbitre, chacun est cause et responsable, et que dans les choses involontaires, on n'est pas la vraie cause de ce qui arrive. Or, évidemment, on a fait volontairement toutes celles qu'on a faites après une délibération et un choix préalable. Et par suite, il est tout aussi évident que la vertu et le vice doivent être classés parmi les actes volontaires de l'homme. Chapitre 7. Sommaire. Du volontaire et de l'involontaire. Du libre arbitre comme source de la vertu et du vice. Tout acte vient de l'appétit, de la réflexion ou de la raison. De l'appétit considéré dans sa première nuance qui est le désir. Citation des Vénus. L'acte qui suit le désir semble tantôt volontaire et tantôt involontaire. Contradictions diverses. L'acte qui est suivant le cœur, seconde nuance de l'appétit, offre les mêmes contradictions. Citation d'Héraclite. La liberté ne se confond pas avec l'appétit. Paragraphe 1. Il nous faut donc étudier ce que c'est que le volontaire et l'involontaire, et ce que c'est que la préférence réfléchie ou libre arbitre, puisque la vertu et le vice sont déterminés par ces conditions. Occupons-nous d'abord du volontaire et de l'involontaire. Paragraphe 2. Un acte, ce semble, ne peut avoir qu'un de ces trois caractères. Ou il vient de l'appétit, ou il vient de la réflexion, ou il vient de la raison. Il est volontaire quand il est conforme à l'une de ces trois choses. Il est involontaire quand il est contraire à l'une d'entre elles. Mais l'appétit se divise lui-même en trois nuances. La volonté, le cœur, le désir. Par conséquent, il faut admettre une division analogue dans l'acte volontaire. Et il faut le considérer d'abord relativement au désir. Paragraphe 3. Il semble à première vue que tout ce qui se fait par désir est volontaire, car l'involontaire paraît toujours être une contrainte. La contrainte, résultat de la force, est toujours pénible, ainsi que tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on souffre par nécessité. Et, comme le dit fort bien Evenus, tout acte nécessaire est un acte pénible. Paragraphe 4. Ainsi, l'on peut dire que si une chose est pénible, c'est qu'elle est forcée, et que si elle est forcée, elle est pénible. Paragraphe 5. Mais tout ce qui se fait contre le désir est pénible, puisque le désir ne s'applique jamais qu'à un objet agréable, et par conséquent, c'est un acte forcé et involontaire. Réciproquement, ce qui est selon le désir est volontaire, car ce sont là des affirmations qui sont contraires les unes aux autres. Paragraphe 6. Ajoutez que toute action vicieuse rend l'homme plus mauvais. Ainsi, l'intempérance est certainement un vice. Or, l'intempérant est celui qui, pour satisfaire son désir, est capable d'agir contre sa propre raison. Il fait acte d'intempérance quand il agit suivant le désir qui l'emporte. Mais on n'est coupable que parce qu'on le veut bien. Et il s'ensuit que l'intempérant se rend coupable parce qu'il agit suivant sa passion. Il agit donc avec pleine volonté, et toujours ce qui est conforme à la passion est volontaire. Ce serait une absurdité de croire qu'en devenant intempérants, les hommes deviennent moins coupables. Paragraphe 7. D'après ces considérations, il semblerait donc que ce qui est conforme au désir est volontaire. Mais voici d'autres considérations qui sembleraient prouver tout le contraire. Tout ce qu'on fait librement, on le fait en le voulant. Et tout ce qu'on fait en le voulant, on le fait librement. Or, personne ne veut ce qu'il croit mal. Ainsi, l'intempérant qui se laisse dominer par sa passion ne fait pas ce qu'il veut. Car faire, pour contenter son désir, le contraire de ce qu'on croit le meilleur, c'est se laisser emporter par sa passion. Il résulte par conséquent de ces arguments contraires que le même homme agira volontairement et involontairement. Mais c'est là une impossibilité manifeste. Paragraphe 8. D'un autre côté, le tempérant agira bien, et même on peut dire qu'il agira mieux que l'intempérant, car la tempérance est une vertu, et la vertu rend les hommes d'autant meilleurs. Il fait acte de tempérance quand il agit suivant sa raison contre son désir. De là une contradiction nouvelle. Car si ce bien conduire est volontaire, tout comme ce mal conduire, et l'on ne peut nier que ces deux choses ne soient parfaitement volontaires, ou que du moins, l'une étant volontaire, il ne faille nécessairement que l'autre le soit aussi, il s'ensuit que ce qui est contre le désir est volontaire. Et alors, le même homme fera une même chose tout à la fois et volontairement et contre sa volonté. Paragraphe 9. Même raisonnement pour le cœur et pour la colère, puisqu'il semble bien aussi qu'il y a tempérance et intempérance du cœur comme il y en a pour le désir. Or, ce qui est contre le sentiment du cœur est toujours pénible, et le retenir, c'est toujours se forcer. Par conséquent, si tout acte forcé est involontaire, il en résulte que tout ce qui est suivant le cœur est volontaire. Héraclite semblait regarder à cette puissance presque irrésistible du cœur quand il a dit que le dompter est chose bien pénible, ce fier cœur qui toujours met la vie en enjeu. Paragraphe 10. Mais s'il est impossible d'agir volontairement et involontairement dans le même moment, et pour la même partie de la chose qu'on fait, on peut dire que ce qui est suivant la volonté est plus libre que ce qui est suivant la passion ou le cœur. La preuve, c'est que nous faisons volontairement une foule de choses sans le secours de la colère ni de la passion. Paragraphe 11. Reste donc à rechercher si c'est une seule et même chose que la volonté et la liberté. Or, il nous paraît impossible de les confondre, car nous avons supposé, et il nous semble toujours, que le vice rend les hommes plus mauvais et que l'intempérance est un vice d'une certaine sorte. Mais ici, ce serait tout le contraire qui se produirait, car personne ne veut ce qu'il croit mal, et il ne le fait que quand emporté par l'intempérance, il ne se possède plus. Si donc faire mal est un acte libre, et que l'acte libre soit celui qui est fait suivant la volonté, on ne fait plus mal quand on devient intempérant, parce qu'on perd toute domination de soi. Et l'on est même alors plus vertueux qu'avant de se laisser aller à l'intempérance qui vous aveugle. Mais qui voit combien que cela est absurde? Paragraphe 12. J'en conclus qu'agir librement, ce n'est pas agir suivant l'appétit, et que ce n'est pas agir sans liberté que d'agir contre lui. Paragraphe 13. J'ajoute que l'acte volontaire n'est pas davantage celui qui est fait après réflexion, et voici comment je le prouve. Plus haut, il a été démontré que ce qui est suivant la volonté n'est pas forcé, et à plus forte raison, que tout ce qu'on veut est parfaitement libre. Mais nous n'avons démontré réellement que ceci, à savoir qu'on peut faire librement des choses qu'on ne veut pas. Or, il y a une foule de choses que nous faisons sur le champ par cela seul que nous le voulons, tandis que l'on ne peut jamais agir sur le champ par réflexion. Chapitre 8. Sommaire. Définition de l'acte volontaire. Il suppose toujours l'emploi de la raison, le nécessaire ou la force. Différence de l'homme et des autres êtres animés. L'acte volontaire vient d'une cause intérieure. L'acte nécessaire vient d'une cause étrangère. De la tempérance et de l'intempérance. Contrainte morale. Les enthousiastes. Les devins. Mots de Philaloüs. C'est encore affirmer la liberté que de la nier. Paragraphe 1. S'il faut nécessairement, comme nous l'avons vu, que l'acte libre et volontaire se rapporte à l'une de ces trois choses, l'appétit, la réflexion, la raison. Et s'il n'est aucune des deux premières, il reste que l'acte volontaire consiste à faire quelque chose après y avoir appliqué d'une certaine manière sa pensée et sa raison. paragraphe 2. Poussons même un peu plus loin ces considérations avant de mettre fin à la définition que nous voulions donner du volontaire et de l'involontaire. Il me semble en effet que ce qui caractérise proprement ces deux idées, c'est que dans un cas, on agit par force ou contrainte, et que dans l'autre cas, on n'agit point par force. Dans le langage ordinaire, tout ce qui est forcé est involontaire, et l'involontaire est toujours forcé. Il faut donc, en premier lieu, examiner ce que c'est que la force ou la contrainte, voir quelle est sa nature et quels en sont les rapports avec le volontaire et l'involontaire. Paragraphe 3. Le forcé et le nécessaire semblent être, ainsi que la force et la nécessité, opposés au volontaire et à la persuasion en ce qui regarde les actions que l'homme peut faire. En général, même la force et la nécessité peuvent s'appliquer aussi aux choses inanimées. Et l'on dit, par exemple, que c'est par force et par nécessité que la pierre s'élève en haut, que le feu tombe en bas. Quand au contraire les choses sont portées suivant leur nature et leur direction propre, on ne dit plus qu'elles sont contraintes par la force. Il est vrai qu'on ne dit pas non plus qu'elles y sont portées volontairement, et cette opposition n'a pas reçu de nom particulier. Mais quand elles sont poussées contre cette tendance naturelle, nous disons que c'est par force qu'elles se meuvent ainsi. Paragraphe 4. De même pour les animaux et les êtres vivants, on peut voir qu'ils font et qu'ils souffrent bien des choses par force, quand une cause extérieure vient à les mouvoir, contrairement à leur tendance naturelle. Dans les êtres inanimés, le principe qui les meut est simple. Mais dans les êtres animés, il peut être fort multiple, car l'instinct et la raison ne sont pas toujours parfaitement d'accord. Paragraphe 5. La force agit d'une manière absolue dans les animaux autres que l'homme, précisément comme elle agit dans les choses inanimées. Car chez eux, la raison et l'instinct ne se combattent pas. Et ces êtres ne vivent que selon l'instinct qui les domine. Dans l'homme, au contraire, il y a les deux mobiles, et ils s'exercent sur lui à un certain âge, auquel nous supposons qu'il a la faculté d'agir. Ainsi, nous ne disons pas que l'enfant agit à proprement parler, non plus que l'animal. Mais l'homme n'agit véritablement que quand il agit avec sa raison. Paragraphe 6. Tout ce qui est forcé est toujours pénible, comme je l'ai dit, et personne n'agit de force avec plaisir. C'est là ce qui jette tant d'obscurité sur la question du tempérant et de l'intempérant. L'un et l'autre agissent en sentant chacun en soi des tendances contraires. Le tempérant agit donc par force à ce qu'on prétend, en s'arrachant aux passions qui le sollicitent. Et certainement, il souffre en résistant au désir qui le pousse en un sens opposé. De son côté, l'intempérant agit également par force en luttant contre la raison qui voudrait l'éclairer. Paragraphe 7. Cependant, l'intempérant doit moins souffrir à ce qu'il semble, car le désir ne vise jamais qu'à ce qui plaît, et on y obéit toujours avec une certaine joie. Par conséquent, l'intempérant agit plus volontairement, et l'on peut dire avec moins de raison qu'il agit par force, puisqu'il n'agit pas avec peine et souffrance. Quant à la persuasion, c'est tout l'opposé de la force et de la nécessité. L'homme tempérant ne fait que les choses dont il est persuadé. Et il agit non par force, mais très volontairement, tandis que le désir vous pousse sans vous avoir préalablement persuadé, parce qu'il n'a pas la moindre part de raison. Paragraphe 8. On voit donc que c'est en ce sens qu'on peut dire que les intempérances seules agissent par force et involontairement. Et l'on comprend bien pourquoi. C'est qu'il se passe en eux quelque chose qui ressemble à la contrainte et à la force que nous observons dans les objets inanimés. Paragraphe 9. Mais si l'on rapproche de ceci ce qui a été dit plus haut dans la définition proposée, on aura précisément la solution qu'on cherche. Ainsi, quand quelque chose d'extérieur vient pousser ou arrêter un corps quelconque à l'inverse de sa tendance, nous disons qu'il est mu de force. Et dans le cas contraire, nous disons qu'il n'est pas mu par force. Or, pour l'homme tempérant et pour l'intempérant, c'est la tendance qu'ils ont chacun en soi qui les pousse. Ils ont en eux les deux principes, et par conséquent, ni l'un ni l'autre n'agit par force. Mais l'un et l'autre agissent librement, par ces deux mobiles, et sans nécessité qui les contraigne. Paragraphe 10. Nous appelons en effet nécessité, le principe extérieur qui pousse ou qui arrête un corps contre sa tendance naturelle, comme si quelqu'un vous prenait la main pour en frapper une autre personne malgré votre résistance, contre votre volonté et contre votre désir. Mais du moment que le principe est intérieur, il n'y a plus de violence, puisqu'alors le plaisir et la peine peuvent se produire dans les deux cas. Paragraphe 11. En effet, celui qui se possède et reste tempérant éprouve une certaine douleur en agissant contre son désir, mais il jouit en même temps du plaisir que lui donne l'espérance de tirer ultérieurement un avantage de sa sagesse ou l'assurance de conserver actuellement sa santé. De son côté, l'intempérant jouit de goûter par son intempérance l'objet de son désir. Mais il a la douleur des conséquences qu'il prévoit, car il sait très bien qu'il a fait une faute. Paragraphe 12. En résumé, on peut donc affirmer avec quelque raison que l'un et l'autre, le tempérant et l'intempérant, agissent par force, et que l'un et l'autre agissent en quelque sorte malgré eux, sous la contrainte de l'appétit et de la raison. Car lorsque ces deux mobiles sont opposés, ils se repoussent réciproquement l'un et l'autre. Et c'est ce qui fait qu'on rapporte par extension ce phénomène à l'âme tout entière, parce qu'on voit l'une de ses parties présenter quelque chose d'analogue. Ceci sans doute est exact si on l'applique à ses parties. Mais l'âme entière de l'homme tempérant et de l'intempérant agit bien volontairement. Ni l'une ni l'autre n'agissent par contrainte. Et c'est seulement un des éléments qui sont en eux qui agit de force, puisque nous avons naturellement en nous les deux mobiles à la fois. La nature veut que ce soit la raison qui commande, puisque la raison doit être en nous, quand notre organisation originelle est laissée à son propre développement et qu'elle n'a pas été altérée. Ce qui n'empêche pas que la passion et le désir n'y aient aussi leur place, puisqu'ils nous sont également donnés en même temps que la vie. Paragraphe 14. En effet, c'est par ces deux caractères à peu près exclusivement que nous déterminons la vraie nature des êtres. D'un côté, d'abord, par les choses qui appartiennent à tous les êtres de la même espèce dès qu'ils sont nés, et ensuite, par les choses qui se passent plus tard en eux, quand on laisse leur organisation primitive se développer régulièrement, comme la blancheur des cheveux, la vieillesse et tous les autres phénomènes analogues. En résumé, on peut dire que ni le tempérant ni l'intempérant n'agissent conformément à la nature. Mais, absolument parlant, l'homme tempérant et l'intempérant agissent selon leur nature. Seulement, cette nature n'est pas la même de part et d'autre. Paragraphe 15. Voilà donc les questions soulevées en ce qui regarde l'homme tempérant et l'intempérant. Tous les deux sont-ils contraints et forcés? L'un des deux seulement agit-il par suite d'une violence? L'homme tempérant et l'intempérant agissent-ils sans le vouloir? Agissent-ils tous les deux et par force, à la fois et volontairement? Et si l'acte imposé par la violence est toujours involontaire, peut-on dire qu'ils agissent tout ensemble et de leur plein gré et par force? C'est d'après les explications que nous avons données qu'on peut, ce nous semble, répondre à toutes ces difficultés. Paragraphe 16. Dans un autre sens, on dit encore qu'on agit par force et par nécessité, sans même que l'appétit et la raison soient en désaccord, quand on fait une chose qu'on trouve pénible et mauvaise. Mais quand on serait exposé, si on ne la faisait pas, à des sévices personnels, au fer, à la mort. Dans tous ces cas, on dit qu'on a obéi à une nécessité. Paragraphe 17. Ou bien, cette hypothèse même n'est-elle pas inexacte? N'est-ce donc pas toujours de sa libre volonté qu'on agit dans tout cela? Et ne peut-on pas toujours refuser de faire ce qu'on exige de nous en supportant toutes les souffrances dont on nous menace? Paragraphe 18. Il y a ici certains points qu'on peut admettre et d'autres qu'il faut repousser. Toutes les fois qu'il s'agit de choses où il dépend de nous, qu'elles soient ou ne soient pas. Du moment qu'on les fait, tout en ne les voulant point, on les fait librement et non par force. Pour les choses, au contraire, qui ne dépendent pas de nous, on peut dire qu'il y a une contrainte, bien qu'il n'y ait pas une contrainte absolue, puisque l'être lui-même ne choisit pas ce qu'il fait précisément, et qu'il ne choisit que la fin en vue de laquelle il agit comme il fait. Or, c'est là une différence qui vaut la peine qu'on la remarque. Paragraphe 19. Si, par exemple, pour éviter d'être touché par quelqu'un, on allait jusqu'à le tuer, ce serait une plaisante excuse que de dire que l'on a commis ce meurtre malgré soi et par nécessité. Il faudrait qu'on eût à souffrir un mal plus grand et plus intolérable si l'on n'agissait pas comme on l'a fait. Car c'est bien alors qu'on obéit à la nécessité et qu'on agit par force, ou du moins qu'on n'agit pas naturellement lorsqu'on fait du mal en dépit de soi ou en vue d'un certain bien ou en vue d'un mal plus grand qu'on veut éviter, puisque ce sont là des circonstances qui ne dépendent pas de nous. Paragraphe 20. Voilà pourquoi, très souvent, on regarde l'amour comme involontaire, ainsi que d'autres emportements du cœur et certaines émotions physiques qui sont, comme on dit, plus fortes que nous. Dans tous ces cas, on excuse ces fautes comme ayant été provoquées par des causes qui triomphent habituellement de la nature humaine. On pourrait trouver qu'il y a force et contrainte plutôt quand nous faisons quelque chose pour ne point éprouver une douleur trop forte que quand nous n'agissons que pour n'en point avoir une légère. Ou bien encore, quand nous agissons pour éviter un mal quelconque, plutôt que pour nous procurer du plaisir. Car en général, on entend par ce qui dépend de quelqu'un ce que sa nature est capable de supporter. Et l'on dit qu'une chose ne dépend pas de lui quand sa nature n'est pas capable de l'endurer, et que cette chose n'est naturellement conforme ni à son instinct ni à sa raison. Paragraphe 21. Voilà comment, en parlant des enthousiastes et des devins qui prédisent l'avenir, on affirme, bien qu'ils fassent acte de pensée, qu'il ne dépend pas d'eux de dire ce qu'ils disent, ni de faire ce qu'ils font. Paragraphe 22. On ne se possède pas davantage sous l'influence de la passion, et l'on peut assurer qu'il y a telle pensée et tel sentiment qui ne dépendent pas de nous, non plus que les actes qui viennent à la suite de ces pensées et de ces raisonnements. C'est là ce qui faisait dire à Philolaus, avec tant de raison, qu'il y a certaines idées plus fortes que nous. En résumé, si nous devions, pour bien analyser le volontaire et l'involontaire, le rapprocher de l'idée de force et de violence, notre étude serait achevée. Et il faut nous arrêter ici, car ceux-là même qui nient le plus vivement la liberté et qui prétendent n'agir que contraints et forcés n'en sont pas moins libres dans l'opinion qu'ils défendent. Chapitre 9. Sommaire. Du volontaire et de l'involontaire. Définition de ces deux termes. Paragraphe 1. Après avoir atteint notre but, qui était de prouver que la liberté n'est bien définie ni par l'appétit, ni par la réflexion, il nous reste à spécifier ce qui, dans ce phénomène, regarde la pensée et la raison. Un premier point incontestable, c'est que le volontaire paraît l'opposé de l'involontaire, et qu'agir en sachant à qui l'on s'adresse, comment et pourquoi l'on agit, est tout le contraire d'agir en ignorant à qui l'on s'adresse, comment et pourquoi l'on agit comme l'on fait. J'entends une ignorance réelle et non pas indirecte. Ainsi, vous pouvez savoir dans tel cas qu'il s'agit de votre père, et vous agissez comme vous faites, non pour le tuer, mais pour le sauver. Par exemple, les filles de Pélias se trompèrent de cette façon. Ou bien, on se trompe comme se trompent les gens qui donnent un breuvage en croyant que c'est un philtre ou du vin, tandis que c'est du poison. Ce que l'on fait par ignorance des personnes et des choses et des moyens qu'on emploie est involontaire, et le contraire est volontaire. Paragraphe 3. Ainsi donc, toutes les choses que l'individu fait, bien qu'il dépende de lui de ne les pas faire, et toutes les choses qu'il fait sans les ignorer, et où il agit par lui-même, doivent nécessairement passer pour des choses volontaires. Et c'est là ce qu'on entend par la liberté, par le volontaire. Au contraire, tout ce qu'on fait, en ignorant ce qu'on fait et parce qu'on l'ignore, doit passer pour involontaire. Paragraphe 4. Mais, comme savoir ou connaître, peut s'entendre en un double sens et qu'il signifie tantôt posséder la science et tantôt s'en servir actuellement, celui qui possède la science mais qui n'en use pas peut, en un sens, être justement appelé ignorant, et dans un autre sens, il ne peut pas l'être justement. Par exemple, si c'est par une négligence coupable qu'il ne sait pas servi de ce qu'il sait. Réciproquement encore, quelqu'un qui ne possède pas la science, qui ne sait pas, peut être parfois blâmé avec toute justice si c'est parce que, par abandon au plaisir ou par crainte de la peine, qu'il a négligé d'acquérir une science qu'il lui était facile ou même nécessaire de posséder. Maintenant, que nous avons ajouté ces considérations à toutes les précédentes, nous avons fini ce que nous voulions dire sur le volontaire et l'involontaire. Chapitre 10. Sommaire. De l'intention, son rapport à la volonté, ses différences. L'intention ne peut se confondre ni avec le désir, ni avec le jugement, ni avec la volonté. L'intention ne s'adresse jamais à une fin, mais elle s'adresse seulement aux moyens qui mènent à cette fin. Rapport de l'intention à la liberté. La délibération ne peut s'appliquer qu'aux choses qui dépendent de nous. L'intention est un composé du jugement et de la volonté. L'homme seul est doué de cette faculté. Il ne l'a pas à tout âge, ni en toutes circonstances. Sagesse des législateurs. Citation des analytiques. La volonté de l'homme ne s'applique naturellement qu'aux biens réels ou apparents. Origine de l'erreur. Influence du plaisir et de la douleur sur nos jugements et sur la vertu. Paragraphe 1. À la suite de tout ceci, analysons la nature de l'intention, après avoir exposé préalablement les questions théoriques que soulève ce sujet. Le premier doute qui se présente à l'esprit, c'est de savoir dans quel genre se place naturellement l'intention et à quel genre il faut la rapporter. L'acte volontaire et l'acte fait avec intention sont-ils différents l'un de l'autre, ou ne sont-ils qu'une seule et même chose? Quelques personnes soutiennent, et en y regardant de près on peut partager leur avis, que l'intention est l'une de ces deux choses, ou l'opinion ou l'appétit, car ces deux phénomènes semblent toujours accompagner l'intention. Paragraphe 3. Évidemment, d'abord, elle ne se confond pas avec l'appétit, car elle serait alors ou volonté ou désir ou colère, puisque l'appétit suppose toujours que l'on a éprouvé l'une ou l'autre de ces impressions. La colère et le désir appartiennent aussi aux animaux eux-mêmes, tandis que l'intention ne leur appartient jamais. De plus, les êtres mêmes qui réunissent ces deux facultés font avec intention une foule d'actes où la colère ni le désir n'entrent pour rien. Et quand ils sont emportés par le désir ou la passion, ils n'agissent plus par intention, ils sont purement passifs. Ajoutez enfin que le désir et la colère sont toujours accompagnés de quelques peines, tandis qu'il y a beaucoup de choses où intervient notre intention sans que nous éprouvions la moindre douleur. Paragraphe 4. On ne peut pas dire davantage que la volonté et l'intention soient la même chose. Parfois on veut des choses impossibles, tout en sachant bien qu'elles le sont, comme de régner sur tous les hommes, comme d'être immortel. Mais personne n'a jamais l'intention de faire une chose impossible, s'il n'ignore point qu'elle est impossible. Ni même en général, de faire ce qui est possible, quand il juge d'ailleurs qu'il n'est pas en état de faire ou de ne pas faire la chose. Voici donc un point bien évident, c'est que, toujours, l'objet de l'intention doit être nécessairement une de ces choses qui ne dépendent que de nous. Paragraphe 5. Il n'est pas moins clair que l'intention ne se confond pas non plus avec l'opinion ou le jugement, ni absolument avec un simple objet de pensée. L'intention, venons-nous de dire, ne peut jamais s'appliquer qu'il y a des choses qui doivent dépendre de nous. Mais nous pensons une foule de choses qui ne dépendent de nous en quoi que ce soit. Et, par exemple, que le diamètre est incommensurable. Paragraphe 6. En outre, l'intention n'est ni vraie ni fausse, pas plus d'ailleurs que ne l'est notre jugement dans les choses pratiques qui ne dépendent que de nous, quand il nous porte à penser que nous devons faire ou ne pas faire quelque chose. Mais voici un point commun entre la volonté et l'intention. C'est que jamais l'intention ne s'applique directement à une fin, mais seulement aux moyens qui mènent à cette fin. Ainsi, par exemple, personne n'a l'intention d'être bien portant. Mais on a seulement l'intention de se promener ou de rester assis en vue de la santé qu'on désire. On n'a pas davantage l'intention d'être heureux, mais on a l'intention de gagner de la fortune ou d'affronter même un péril pour arriver au bonheur. En un mot, quand on choisit un parti et qu'on exprime une intention, on peut dire toujours ce qu'on a l'intention de faire et ce en vue de quoi l'on a cette intention. Il y a ici deux choses bien distinctes, l'une pour laquelle on a l'intention d'en faire une autre et la seconde qu'on a l'intention de faire en vue de la première. Paragraphe 7. Or, ce qui est éminemment aussi l'objet de la volonté, c'est la fin qu'on désire. Et ce qui est l'objet également de l'opinion, par exemple, c'est qu'il faut être bien portant et qu'il faut être heureux. Paragraphe 8. Il est donc, de toute évidence, d'après ces différences, que l'intention ne se confond ni avec le jugement ou opinion, ni avec la volonté. La volonté et le jugement s'appliquent essentiellement à un but final, mais l'intention ne s'y applique pas. Paragraphe 9. Ainsi, il est clair que l'intention n'est absolument parlant ni la volonté, ni le jugement, ni la conception. Mais en quoi diffère-t-elle de tout cela? Et quel en est le rapport précis à la liberté et au volontaire? Résoudre ces questions, ce sera montrer nettement ce que c'est que l'intention. Paragraphe 10. Dans le nombre des choses qui peuvent être et ne pas être, il y en a quelques-unes qui sont de telle nature qu'on peut en délibérer. Pour d'autres, la délibération n'est même pas possible. Les possibles, en effet, peuvent bien être et ne pas être. Mais la production n'en dépend pas de nous, les uns étant produits par la nature et les autres l'étant par diverses causes. Dès lors, on ne pourrait délibérer de ces choses, à moins d'ignorer absolument ce qu'elles sont. Paragraphe 11. Mais pour les choses qui non seulement peuvent être et ne pas être, mais auxquelles peuvent en outre s'appliquer les délibérations humaines, ce sont celles-là précisément qu'il dépend de nous de faire ou de ne pas faire. Aussi, ne délibérons-nous pas de ce qui se passe dans les Indes, ni des moyens de faire que le cercle puisse être converti en carré, car ce qui se passe aux Indes ne dépend pas de nous, et la quadrature du cercle n'est pas chose faisable. Paragraphe 12. Il est vrai qu'on ne délibère même pas non plus de toutes les choses réalisables qui ne dépendent que de nous. Et c'est bien là encore une preuve nouvelle que, absolument parlant, l'intention n'est pas le jugement puisque toutes les choses auxquelles s'applique l'intention et qu'on peut faire sont nécessairement de celles qui dépendent de nous. Paragraphe 13. Aussi, en suivant cette idée, pourrait-on se demander comment il se fait que les médecins délibèrent sur les choses dont ils possèdent la science, tandis que les grammairiens n'en délibèrent jamais. La cause en est que l'erreur pouvant se commettre de deux façons, puisqu'on peut se tromper par raisonnement ou bien par simple sensation, il y a cette double chance d'erreur en médecine. Tandis que si, dans la grammaire, on voulait discuter la sensation et l'usage, ce serait à n'en pas finir. Paragraphe 14. L'intention n'étant ni le jugement ni la volonté séparément, et n'étant pas non plus les deux pris ensemble, car l'intention ne se produit jamais instantanément, tandis qu'on peut juger sur le champ qu'il faut agir et vouloir à l'instant même, il reste qu'elle soit composée de ces deux éléments réunis dans une certaine mesure, tous les deux se retrouvant dans tout acte d'intention. Mais il faut examiner de près comment l'intention peut se composer du jugement et de la volonté. Paragraphe 15. Rien que le mot lui-même nous l'indique déjà en partie. L'intention qui, entre deux choses, préfère l'une à l'autre, est une tendance à choisir, un choix non pas absolu, mais le choix d'une chose qu'on place avant une autre chose. Or, ce choix n'est pas possible sans un examen et sans une délibération préalable. Ainsi, l'intention, la préférence réfléchie, vient d'un jugement qui est accompagné de volonté et de délibération. Paragraphe 16. Mais jamais on ne délibère à proprement parler sur le but qu'on se propose, car le but est le même pour tout le monde. On délibère seulement sur les moyens qui peuvent mener à ce but. On délibère d'abord pour savoir si c'est telle chose ou telle autre qui peut y conduire. Et une fois qu'on a jugé que telle chose y conduit, on délibère pour savoir comment on aura cette chose. En un mot, nous délibérons sur l'objet qui nous occupe jusqu'à ce que nous ayons ramené à nous-mêmes et à notre initiative le principe qui doit produire tout le reste. Paragraphe 17. Si donc on ne peut appliquer son intention et sa préférence sans avoir préalablement examiné et pesé le meilleur et le pire, et si l'on ne peut délibérer que sur ce qui dépend de nous, dans les choses qui peuvent être et ne pas être relativement au but poursuivi, il s'ensuit évidemment que l'intention ou la préférence est un appétit, un instinct, capable de délibérer sur des choses qui dépendent de nous. Car nous voulons toujours ce que nous avons résolu de faire, tandis que nous ne résolvons pas toujours de faire ce que nous voulons. J'appelle capable de délibérer cette faculté dont la délibération est le principe et la cause, et qui fait que l'on désire une chose parce qu'on en a délibéré. Paragraphe 18. Ceci nous explique pourquoi l'intention, accompagnée de préférence, ne se rencontre pas dans les autres animaux, et pourquoi l'homme lui-même ne l'a ni à tout âge, ni dans toutes circonstances. C'est que la faculté de délibération, non plus que la conception de la cause, ne s'y rencontre point davantage. Et quoique la plupart des hommes aient la faculté de juger s'il faut faire ou ne pas faire telle ou telle chose, il s'en faut bien que tous puissent se décider par le raisonnement, attendu que la partie de l'âme qui délibère est celle qui est capable de considérer et de comprendre une cause. Paragraphe 19. Le pourquoi, la cause finale, est une des espèces de causes, car le pourquoi est cause, et la fin en vue de laquelle une autre chose est ou se produit est appelée cause. Ainsi, par exemple, le besoin de toucher les revenus qu'on possède est cause qu'on se mette en voyage. Si c'est en effet, en vue de faire cette recette qu'on s'est mise en route. Voilà comment les gens qui n'ont aucun but sont incapables de délibérer. Paragraphe 20. Nous pouvons donc établir que l'homme, dans une chose qu'il dépend de lui de faire ou de ne pas faire, quand il la fait ou l'évite de son plein gré, la fait ou s'en abstient sciemment et non par ignorance. Et nous faisons en effet beaucoup de choses de ce genre sans y avoir pensé ni réfléchi préalablement. Une conséquence nécessaire, c'est que l'intentionnel est toujours volontaire, tandis que le volontaire n'est pas toujours intentionnel. En d'autres termes, toutes les actions intentionnelles sont volontaires, tandis que toutes les actions volontaires ne sont pas intentionnelles. Paragraphe 21. Ceci nous prouve en même temps que les législateurs ont eu raison de diviser les actes et les passions de l'homme en trois classes, volontaires, involontaires, préméditées. Et bien qu'il n'ait pas dû se piquer d'une parfaite exactitude, ils n'ont pas laissé que de toucher une partie de la vérité. Mais ce sont là des questions que nous traiterons dans l'étude de la justice et des droits. Paragraphe 22. Quant à l'intention ou préférence, il nous est évident qu'elle n'est absolument ni la volonté ni le jugement, et quel est le jugement et l'appétit réunis, lorsque l'on conclut et que l'on décide un acte après une délibération préalable. Mais de plus, comme lorsqu'on délibère, on délibère toujours en vue de quelque fin qu'on poursuit, et qu'il y a toujours un but sur lequel celui qui délibère a les regards attachés pour discerner ce qui peut lui être utile, il en résulte, je le répète, que personne ne délibère à proprement parler sur la fin. Mais c'est cette fin qui est le principe et l'hypothèse initiale de tout le reste, comme le sont les hypothèses fondamentales dans les sciences de pure théorie. Nous avons déjà dit quelques mots de tout cela au début de cette discussion, et nous en avons traité avec tout le soin désirable dans les analytiques. Paragraphe 23. D'ailleurs, l'examen des moyens qui peuvent conduire au but désiré peut être fait avec l'habileté que l'art inspire ou sans habileté. Et par exemple, si l'on délibère pour savoir si l'on fera ou si l'on ne fera pas la guerre, on peut se montrer plus ou moins habile dans cette délibération. Paragraphe 24. Le point qui, tout d'abord, méritera le plus d'attention, c'est de savoir en vue de quoi l'on doit agir, c'est-à-dire le pourquoi. Est-ce la richesse que l'on veut? Ou est-ce le plaisir? Ou telle autre chose qui est le but véritable en vue duquel on agit? Or, l'homme qui délibère ne délibère que parce qu'après avoir considéré la fin qu'il veut atteindre, il juge que le moyen employé peut amener cette fin à lui, ou parce que ce moyen peut le conduire lui-même à cette fin. Paragraphe 25. La fin par sa nature est toujours bonne, tout aussi bien que le moyen particulier sur lequel on délibère spécialement. Ainsi, par exemple, un médecin délibère pour savoir s'il administrera tel ou tel remède, et un général d'armée délibère pour savoir le lieu où il fera camper ses troupes. Et dans tous ces cas, la fin qu'on se propose est bonne, et elle est d'une manière absolue ce qu'il y a de mieux. Paragraphe 26. C'est un fait contre nature et qui renverse l'ordre des choses quand la fin n'est pas le bien véritable, mais seulement l'apparence du bien. Cela tient à ce que, parmi les choses, il y en a quelques-unes qui ne peuvent être employées qu'à l'usage spécial pour lequel la nature les a faites. Telle est la vue, par exemple. Il n'y a pas moyen de voir des choses auxquelles ne s'applique pas la vue, ni d'entendre des choses où l'ouïe n'a que faire. Mais on peut faire par la science des choses dont il n'y a pas de science. Et ainsi, bien que ce soit la même science qui traite de la santé et de la maladie, ce n'est pas de la même façon qu'elle en traite, puisque l'une est suivant la nature et que l'autre est contre nature. Paragraphe 27. C'est tout à fait de même que la volonté, dans l'ordre de la nature, s'applique toujours au bien, et que c'est quand elle est contre nature qu'elle peut s'appliquer aussi au mal. Par nature, elle veut le bien, et elle ne veut le mal que contre nature et par perversité. Mais la ruine et la perfection de chaque chose ne la fait point passer au hasard à un nouvel état quelconque. Les choses ne vont alors qu'à leur contraire et aux degrés intermédiaires, car il n'est pas possible de sortir de ses limites. Et l'erreur elle-même ne se produit pas indifféremment dans des choses prises à tout hasard. L'erreur ne se produit que dans les contraires pour tous les cas où il y a des contraires. Et même parmi les contraires, l'erreur n'a lieu que dans les contraires qui le sont suivant la science qu'on en a. Paragraphe 28. Il y a donc une sorte de nécessité que l'erreur et l'intention, ou préférence réfléchie, passent du milieu aux divers contraires. Or, le plus et le moins sont les contraires du milieu au moyen terme. La cause de l'erreur, c'est le plaisir ou la peine que nous ressentons. Car nous sommes faits ainsi que l'âme regarde comme un bien ce qui lui est agréable, et ce qui lui est plus agréable lui semble meilleur. De même que ce qui lui est pénible lui semble mauvais, et que ce qui lui est plus pénible lui semble plus mauvais aussi. Paragraphe 29. Cela même doit encore nous faire voir très clairement que le vice et la vertu ne se rapporte qu'aux plaisirs et aux peines. En effet, la vertu et le vice s'appliquent exclusivement à des actes où nous pouvons marquer notre intention et notre préférence. Mais la préférence s'applique au bien et au mal, ou du moins à ce qui nous semble tel. Et, dans le sens ordinaire de la nature, c'est le plaisir et la douleur qui sont le bien et le mal. Paragraphe 30. De plus, nous avons montré que toute vertu morale est toujours une sorte de milieu dans le plaisir ou dans la peine, et que le vice consiste dans l'excès ou dans le défaut, relativement aux mêmes choses que la vertu. La conséquence nécessaire de ces principes, c'est que la vertu est cette manière d'être morale qui nous porte à préférer le milieu, pour ce qui nous concerne, dans les choses agréables comme dans les choses pénibles. En un mot, dans toutes les choses qui constituent vraiment le caractère moral de l'homme. soit dans la peine, soit dans le plaisir. Car on ne dit jamais d'un homme qu'il a tel ou tel caractère, par cela seul qu'il aime les choses sucrées ou les choses amères. Chapitre 11. Sommaire. De l'influence de la vertu sur l'intention. Elle rend l'action bonne par le but qu'elle se propose. L'acte, à un certain point de vue, a plus d'importance que l'intention. Mais c'est l'intention seule qui fait le mérite ou le démérite. C'est surtout sur les actes qu'il faut juger le caractère d'un homme. Paragraphe 1. Après avoir fixé tous ces points, voyons si la vertu peut rendre la préférence infaillible et la fin qu'elle poursuit toujours bonne, de telle sorte que la préférence ne choisisse jamais avec intention que ce qu'il faut. Ou bien, comme si on le prétend, c'est la raison qu'éclaire ainsi la vertu. À vrai dire, cette vertu, c'est la domination de soi-même, la tempérance, laquelle ne détruit pas apparemment la raison. Paragraphe 2. Mais la vertu et la domination de soi sont deux choses différentes, comme on le montrera plus tard. Et si l'on admet que c'est la vertu qui nous donne une raison droite et saine, c'est parce qu'on suppose que c'est la domination de soi qui est la vertu même et qu'elle est tout à fait digne des louanges qu'on lui adresse. Mais avant d'en parler, nous examinerons quelques questions préliminaires. Paragraphe 3. Dans bien des cas, il est fort possible que le but qu'on se propose soit excellent, et pourtant qu'on se trompe dans les moyens qui doivent y mener. Il se peut tout au contraire que le but soit mauvais et que les moyens qu'on emploie soient très bons. Enfin, il se peut que les uns et les autres soient également erronés. Paragraphe 4. Est-ce la vertu qui fait le but ? Est-ce elle qui fait simplement les choses qui y mènent ? Nous pensons que c'est elle qui fait le but, puisque le but qu'on s'en propose n'est la conséquence ni d'un syllogisme ni même d'un raisonnement. Supposons donc que le but est en quelque sorte le principe et l'origine de l'action. Par exemple, le médecin n'examine pas apparemment s'il faut ou non guérir le malade. Il examine seulement si le malade doit marcher ou ne pas marcher. Le gymnaste n'examine pas s'il faut ou non avoir de la vigueur. Il examine seulement s'il faut que tel élève se livre à la lutte ou s'il ne le faut pas. Paragraphe 5. Il en est absolument ainsi pour toutes les autres sciences. Il n'en est pas une qui s'occupe de la fin même qu'elle poursuit. Et de même que les hypothèses initiales servent de principe dans les sciences de pure théorie, de même aussi la fin poursuivie est le principe, et comme l'hypothèse de tout le reste dans les sciences qui ont à produire quelque chose. Pour guérir telle maladie, il faut nécessairement tel remède, afin que la guérison puisse être obtenue absolument comme pour le triangle si ses trois angles sont égaux à deux droits. Pour guérir telle maladie, il faut absolument tel remède, afin que la guérison puisse être obtenue absolument comme pour le triangle. Si ces trois angles sont égaux à deux droits, il faudra nécessairement qu'il sorte telle conséquence de ce principe une fois admis. Paragraphe 6. Ainsi, la fin qu'on se propose est le principe de la pensée, et la conclusion même de la pensée est le principe de l'action. Si donc c'est ou la raison ou la vertu qui sont les vraies causes de toute rectitude, soit dans les pensées, soit dans les actes, du moment que ce n'est pas la raison, il faudra que ce soit la vertu qui fasse que la fin soit bonne. Mais elle sera sans influence sur les moyens qu'on emploie pour arriver au but. Paragraphe 7. La fin est ce pourquoi l'on agit, puisque toute intention, toute préférence s'adresse à une certaine chose et a toujours une certaine chose en vue. Le but qu'on poursuit à l'aide du moyen terme est causé par la vertu qui consiste à choisir ce but de préférence à tout autre. Mais l'intention ou préférence ne s'applique pas cependant à ce but lui-même. Elle s'applique seulement aux moyens qui peuvent y conduire. Paragraphe 8. Ainsi, c'est à une autre faculté qu'il appartient de nous révéler tout ce qu'il faut faire pour atteindre la fin que nous poursuivons. Mais ce qui fait que la fin que se propose notre intention est bonne, c'est la vertu. Et c'est elle qui en est l'unique cause. Paragraphe 9. Maintenant, on doit comprendre comment on peut, d'après l'intention, juger le caractère de quelqu'un, c'est-à-dire comment il faut regarder le pourquoi de son action bien plus que son action elle-même. Paragraphe 10. Par une sorte d'analogie, on doit dire que le vice ne fait son choix et ne dirige son intention qu'en vue des contraires. Il suffit donc que quelqu'un, quand il ne dépend que de lui de faire de belles actions et de n'en pas faire de mauvaises, fasse tout le contraire pour qu'il soit évident que cet homme n'est pas vertueux. Par une suite nécessaire, le vice est volontaire aussi bien que la vertu, car il n'y a nécessité de vouloir le mal. Paragraphe 11. C'est là ce qui fait que le vice est blâmable et que la vertu est digne de louange. Les choses involontaires, toutes honteuses et mauvaises qu'elles peuvent être, ne sont pas blâmables. Ce ne sont pas les bonnes qui sont louables, ce sont les volontaires. Nous regardons plus aux intentions qu'aux actes pour louer ou blâmer les gens, bien que l'acte soit préférable à la vertu, parce qu'on peut faire le mal par suite d'une nécessité et qu'il n'y a pas de nécessité qui puisse jamais violenter l'intention. Paragraphe 12. Mais, comme il n'est pas facile de voir directement quelle est l'intention, nous sommes forcément obligés de juger du caractère des hommes d'après leurs actes. Paragraphe 13. L'acte vaut certainement plus que l'intention, mais l'intention est plus louable. C'est là une conséquence qui résulte des principes posés par nous, et de plus, cette conséquence s'accorde parfaitement avec les faits qu'on peut observer.